Les pieds sur terre, rediff d'été, c'est maintenant. Cette année-là, c'est l'année 2004. Toute cette semaine, nous en parlions. Et cette année-là avait été notamment marquée pour nous par ce reportage que nous diffusons aujourd'hui. Un exemple, un modèle de travail entre les citoyens d'une ville et un artiste fameux. C'est une émission diffusée donc pour la première fois le 26 juin 2004. À écouter ou peut-être même à réécouter. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne se provoque l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Cette année-là.
Ce qui fait chaud, t'as vu? Comme on travaille exposé au soleil. Prévoir le repas qui va arriver là dans pas longtemps. C'est mes mamans d'ici du quartier qui préparent le repas. Et puis voilà, c'est bon. Hier, on a mangé du mafé. On va voir ce qu'on va manger. La fois, c'était un couscous. La fois, il y avait un méchoui. Et ouais, chaque jour, c'est différent, ça qui est bien. Là, on est en train d'enlever les planches qui ont été clouées sur les palettes, qui nous ont servi de sol. Ça, c'était la bibliothèque. C'était la bibliothèque. Il y avait des livres sur les artistes que M. Thomas a choisi. Il y a des images exposées de la ville d'Aubervilliers dans l'ancien temps, en 1800 et des poussières. Il y avait un DVD, une télé. Ouais, c'était bien.
Attention, travaille comme un esclave, sale chien.
C'est un malien, faut bien préciser, c'est un malien.
Ouais, je suis venu voir mes. Je suis venu les emmerder un peu. On est un peu déçus parce qu'en plus le musée il est fini là. On est un peu déçus, mais là maintenant ça va être vide, tout ça, c'est pas bon. On est un peu triste quoi.
Déjà, on est tous tristes.
Parce qu'il y a plus de musée.
Il y aura plus de musée. C'est fini le musée. Retourner à la galère. Parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail.
Ouais.
On va seulement retourner au quotidien. La galère, les contrôles, la police. Tout quoi. Mais c'est la police qui nous provoque.
Comme ils ne peuvent pas nous impliquer des choses, ils viennent et ils la font à leur manière. Comme ça, il y a rébellion. On vient, on les tape, ils nous tapent et hop, ils nous envoient en prison.
L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art, disait Robert Filliou. L'art, même si on en parle rarement le soir à 17h30, c'est pourtant ce qui rend les gens plus beaux que les musées et les pieds sur terre quand on y met du cœur, plus fort que les tableaux. C'est d'un musée qu'il s'agit donc, pour une fois, un musée où on a pu voir des œuvres de Duchamp, de Malevitch, de Mondrian, de Dali, de Warhol, de Beuys, de ces artistes qui rendent de fait la vie plus belle ou en tout cas plus intéressante. Sauf que voilà, c'est un musée précaire, monté et démontable, et que nous ne sommes pas au palais de Tokyo, mais au pied de la barre Albinet à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Précaire mais bien réel, puisque suivant la démarche de l'artiste Thomas Hirschhorn, le musée a associé les habitants du quartier à sa construction et à son fonctionnement, sa salle d'expo, sa bibliothèque, son atelier, sa buvette, 8 euros de l'heure pour tout le monde. Aujourd'hui, pourtant c'est la fin, il faut démonter, et puisque vous n'écoutez pas Multipiste, mais les pieds sur terre, on prend le point de vue des 10 habitants et on voit ce qu'il en reste du musée précaire d'Aubervilliers. Un reportage de Farida Taher.
Ça va Thomas?
Ouais, ça va.
Vous pouvez me l'amener, je le vois.
On va continuer le deuxième jour de démontage. Vous avez vu, ça s'est très bien passé hier, on était vite. Mais en même temps, c'était le gros œuvre. Maintenant, on doit nettoyer un peu le chantier. D'accord? C'est important que le chantier est tenu, quoi, qu'on a l'impression que ce n'est pas une bombe nucléaire qui tombe là-dessus.
T'appelles Thomas.
Ouais. Une seconde. Moi, une seconde. J'ai encore quelque chose à dire. Hier, que j'ai senti une certaine tristesse, ne vous laissez pas piéger par ça. Parce que finalement, ce qu'on a fait ici, c'est une mission possible. Et ce que j'aimerais pour vous après, que chacun rentre dans sa tête, c'est que s'il s'agit maintenant de trouver un boulot, s'il s'agit de faire une formation, il ne faut jamais se dire non plus, c'est une mission impossible. Et bien voilà. Et c'est, si vous avez compris ça, c'est quelque chose de très positif. Et il faut penser à ça. D'accord? Donc, il n'y en a aucun regret à avoir, il n'y en a aucune amertume à avoir, il n'y en a aucune mélancolie à avoir. Ok. Bon, okay. On travaille. Il y a la benne qui vient.
Il y a tout à l'heure en plus, elle est là.
Bonne journée, les mecs.
C'est à toi.
Voilà qui vont.
Ok.
Ouais, mais Thomas.
Thomas, pourquoi vous cassez tout?
On démonte.
On démonte.
Ben, on démonte parce que le projet est venu à son terme. Donc voilà, on démonte comme c'était prévu. Parce que c'était un musée précaire. C'est un projet artistique limité dans le temps, comme c'était conçu.
Et comment tu crois qu'ils le perçoivent, eux?
Bien. Je pense qu'il comprend bien. Il comprend bien que c'était un projet artistique et justement pas un projet social. C'était un projet pas basé sur une opinion. Par exemple, l'opinion qui dirait « Ah, ça a marché, donc il faut le laisser » ou « Ah, ça n'a pas marché, donc il faut se détruire ». Donc, c'est en dehors de l'opinion. C'est ça la différence. Donc évidemment, c'était compliqué. Déjà, c'était compliqué de faire venir les œuvres d'art. Après, c'était compliqué de pouvoir convaincre le pouvoir politique en place que ce projet peut se faire ici, sur ce site-là. Or, c'est les mêmes gens, souvent, qui n'ont jamais cru au projet auparavant et qui ont dit oh, « on va te casser le truc dans 2 jours, dans 10 jours, dans une semaine ».
Et là, aujourd'hui, ils changent complètement d'avis.
Aujourd'hui, c'est eux qui disent « mais pourquoi maintenant vous le démontez ?»
Ah, il y en a des bouts de bois. Tout était fait avec du bois, avec du scotch. C'est monsieur Thomas qui est un peu l'architecte du contexte.
Voilà ça. C'est ça que ça
fait. Il utilise beaucoup ces matériaux-là pour ses œuvres d'art à lui-même, personnellement, ce qu'il fait dans la vie. Et ouais, je pense qu'il s'est inspiré de. Il s'est inspiré de ce qu'il faisait d'habitude pour construire le musée. Donc c'est super ce qu'il a fait. Comme j'ai avec un rouleau scotch et une baguette de bois, il a fait manger tout le quartier pendant un mois. Et quand je vous dis vraiment manger, c'est vraiment manger. Parce qu'il y a des dames, quand je vous dis les mères de famille du quartier qui faisaient des beignets, qui faisaient des repas, et tout ça c'était payant, ça faisait tourner la buvette, c'était chacun leur tour. Ça a mis vraiment. Ça a rapporté beaucoup le quartier. Vraiment beaucoup. Et je pense que c'est super. Ouais, j'en ai un débisseur.
Non, c'était pour lui là, il veut travailler.
Ouais. Je le dis. Le problème est la carte vitale. Est...
La carte vitale, je l'ai moi.
Bon. Il l'a.
Ah, même là. Elle est où? Tu l'as? Mais il faut que tu aies le numéro de sécurité sociale parce que moi, je veux pas que tu travailles sans être assuré.
Ouais, mais il va te ramener sa carte vitale.
Ouais, non, mais maintenant, il faut l'avant quoi. Parce que maintenant, si t'arrive quelque chose là, qui est responsable? C'est moi.
Ouais. Eh, ramène ta carte vitale.
Tu comprends?
Ouais. Tu vas la ramener ou pas?
Et est-ce que t'as 18 ans?
Ouais.
Il a plus. Prends ta carte vitale et une pièce d'identité, n'importe laquelle, d'accord? Et tu reviens.
On y va.
Ok, vas-y, et reviens.
Marchand, c'est un grand artiste. Monsieur Thomas,
c'est un artiste, mais pour nous, c'est un grand artiste.
Voilà, exactement. Et un autre pote aussi. Pour faire ce qu'il a fait, c'est un ami. Avant ça, je le connaissais pas. Et comme une grande majorité des gens du quartier, on ne connaissait pas. Et surtout, ce qui nous a étonné, c'est de savoir qu'il habitait à Aubervilliers et sur rue du Longy, dans notre quartier à nous. Et ça fait très plaisir de savoir qu'il y a des gens, des grands artistes connus, parce qu'il est connu dans l'Europe et dans le monde aussi, qui résident dans notre ville à nous. Mais du quartier, je suis né dans ce quartier-là. Ici, c'était un terrain vague où les petits jouaient au ballon avant. Maintenant, c'est là où on a établi le contexte du musée précaire. Ça a fait une grande animation, ça a fait beaucoup de choses dans le quartier, quoi. Mais ce travail qu'on a fait là, il demande beaucoup d'argent. Vous vous rendez compte qu'on louait des tableaux, ça parlait en 20 millions d'euros d'assurance, ne serait-ce que par jour. Parce que ça vient dans un quartier défavorisé, dans le 93, c'est chaud, Seine-Saint-Denis à côté du Stade de France. Ça demandait beaucoup d'argent que jamais n'importe quel maire, bon, de la ville de Berre, jamais. Jamais le maire de notre ville à nous, il va déployer autant de subventions pour les jeunes du quartier d'ici. Parce qu'on tient à dire aussi, pendant la construction du musée précaire, on avait le droit des descentes de flics. Le commissaire, il est venu, le commissaire d'Aubervilliers est venu, et il se disait, mais qu'est-ce que vous faites avec ces voyous? C'est des voyous, vous les connaissez pas, vous savez pas c'est qui. Comme quoi que ça sert à rien de travailler avec des jeunes comme nous, quoi. On a une étiquette qui est collée sur le dos, quoi. On est des animaux, quoi, en gros. Et Thomas, il a pas lâché le morceau. Il a dit, on peut faire quelque chose avec ces jeunes, et il l'a fait, quoi, en gros. Il a fait un truc extraordinaire. Parce qu'il y en a qui sont formés, des formations, à mon avis, qui coûtent très cher. Faire une formation au musée Beaubourg, c'est pas permis à tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est... De toute façon, la plupart des jeunes ici sont tous au chômage. C'est pour ça que c'est bien ce qu'il a fait Thomas. Il est venu, il a créé de l'emploi. Vous dire, regardez une personne, l'emploi qu'elle a créé. C'est-à-dire, ça a tourné à 40 personnes par jour des fois. C'était temporaire, c'est vrai. Mais ça a créé de l'emploi. Et ça a fait du bien aux jeunes du quartier. Ça a évité qu'ils galèrent, ça a évité qu'ils fassent des conneries. Ça a commencé. On est là, on est dans le quartier, hop, on est posé, on fume nos petits joints, ouais, il n'y a pas de boulot, j'étais à l'NPE, il n'y a rien, j'ai été demandé une mission d'intérim aujourd'hui, ah, m'a dit qu'il fallait repasser, je repasse tout le mois, il n'y a rien du tout. Donc les jeunes, ils sont démotivés. Là, ça les a motivés. Et monsieur Thomas, lui, il n'a pas attendu, il n'a pas jugé les capacités, il n'a pas jugé s'il y avait des diplômes, non, il a pris tout le monde. Voilà, il y a de 18 ans, il y a de 40 ans, tout le monde a travaillé ensemble, quoi, en communauté. Et c'est très bien ce qu'il a fait. Mais je vous dis là, vous assistez à la démolition, c'est-à-dire on est un petit peu dégoûté, quoi, en gros, quoi. Mais c'est normal, hein, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Voilà, c'est déjà bien.
C'était la buvette en fait. On est en train de démonter la buvette. C'était un terrain, il n'y avait rien du tout et c'est nous qu'on a construit. On a fabriqué le musée précaire. Bon, c'est vrai que tout le monde est un peu énervé de démonter et de casser quoi, le musée, puisqu'il y avait une bonne ambiance. On a rigolé dans ce musée, on a fait beaucoup de choses et voilà quoi, mais on est obligé.
Il faisait partie du décor et de la cité, ça y est, on s'est habitué à le voir. Et c'est un peu triste de le casser comme ça.
Puis là, on prépare la loterie pour les habitants et tous ceux qui ont participé au projet. Attendez, je vais le scotcher comme ça, Macan. Tiens-le comme ça, Macan, tiens-le.
France Culture, les pieds sur terre.
C'est un beau cadeau. Voilà, donc tout va être un peu redistribué comme ça. Voilà. Que les pièces du décor, enfin du musée restent quand même. Que physiquement que ça reste dans. Sur le territoire, c'est pas mal quoi. Parce que c'est quand même pas mal de. d'avoir de quoi embrayer sur ses souvenirs et tout quoi.
Là, dans cette petite annexe là qu'il y a là, il y avait 20 millions d'euros. Dites-moi qui ne va pas aller les chercher, qui va pas aller les voler, je vais vous dire franchement, qui va pas rentrer dedans, assommer une personne et prendre le tableau, c'est tout ce qu'elle va faire, je vous dis la vérité. Il y en a, ils ont été faire des braquages jusqu'au Japon, ils ont sauté des Brinks hein, pour prendre des tableaux. Ok, ici il n'y avait pas de sécurité, regardez, il n'y avait qu'un mec tout seul. Parce qu'ils savaient très bien qu'on était entouré du quartier. Ça allait de la petite dame à là-haut, au petit jeune qui reste tard le soir, tout le monde surveillait. Vraiment, on l'a pris avec le cœur, ça. Voilà.
Moi, c'est Xavier.
Bonjour, Xavier. Comment vas-tu?
Là, on est dans l'Algeco. Anciennement, la salle des expositions. Les œuvres restaient là. Chaque semaine, on changeait l'artiste. La tapisserie murale. Le plus important, il était ici, dans l'Algeco, quand même. Ah oui, moi, j'ai dit oui tout de suite. Hein. Puis, tout s'est bien passé. Pas de dégradation, pas de cassé, pas de vol, rien. Pour en revenir à ce que pas mal de gens pensaient. Donc, voilà. Moi, ce qui m'a déplu un petit peu, c'est que j'ai lu dans un article, Les Incorruptibles, un truc comme ça, ça parlait de gens qui étaient plus à l'école, que des échecs scolaires, grosso modo, qu'on était un peu comme des merdes, quoi. Et moi, ces trucs-là, ça me plaît pas, c'est que de la connerie, parce qu'il y en a plein ici qui pourraient, qui ont des compétences extraordinaires et qu'une personne qui ne les connaît pas porte jugement sur quelqu'un comme ça, sans les connaître. Je sais pas, il y a un minimum de respect. Nous, d'un côté, on essaye de faire en sorte de donner une bonne image de nous, de faire montrer qu'on est capable, qu'on est compétent, qu'on peut faire des choses concrètes. Et de l'autre côté, on nous plante des fourchettes dans le dos. Donc comment voulez-vous qu'on avance si nous on essaye de s'en sortir et que juste derrière on nous redescende? Vous voyez un petit peu, c'est la balance qui arrête pas de pencher à gauche, à droite, elle est jamais stable. Donc. Ouais, et puis j'aime pas qu'on dise du mal, surtout quand on se permet de dire des choses qu'on ne sait même pas. La plupart des gens comme ça, ils ne font qu'aggraver notre cas. C'est des gens qui sont jamais venus ici, qui font que parler par rapport à ce qu'ils entendent, mais ils viennent jamais constater de leurs propres yeux. Bon, je vais pas faire la bonne figure en vous disant qu'ici il se passe rien, parce que là ça serait mentir. Mais c'est un quartier comme les autres. Moi je comprends pas qu'il n'y a pas plus de bordel ici qu'ailleurs, tout simplement. Mais ça c'est clair que même entre gens du quartier, des anciens du quartier qui ont toujours vécu là, qui ont jamais pu, qui parlent de nous mais qui viennent jamais nous parler, c'est pas bien. C'est pas par rapport à, c'est pas, excusez-moi.
Bonjour, comment
bonjour. Bien, ouais. On est là. Hein. Je regarde les gens détruire les musées qu'on a construits. C'est vrai que ça va enlever la toile du quartier. Ça va enlever la toile du quartier, mais on verra, c'est un autre projet. Ah, quoi, c'est un autre projet, vas-y. Hein. On est là pour le projet. Hein.
Pourquoi on arrive à faire du tri sélectif dans nos ordures pour faire des économies et on ferait pas ce même job avec les jeunes sans que ce soit négatif? Ça veut dire qu'on puisse orienter tout le monde bien, qu'on fasse pas les mêmes conneries qu'on a fait 20 ans avant avec nous au niveau scolaire.
Sofiane.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux ta massette?
Tu veux ce que t'as dans la main?
Moi et lui, on était dans la même école primaire. Regardez, on est encore dans le même quartier. Ça fait au moins 15 ans. C'est pas plus. On n'a pas grandi dans un bon contexte. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est tout ce qui est banlieue, tout ce qui est 93, tout ce qui est logements sociaux, tout ce qui est cité, tout ce qui est endroits sensibles. Mais ça, ça a été voulu. Ok? En CM2, dans une école à Paris, on apprend à parler en anglais. Moi, dans mon école, jamais on a appris à parler anglais. Jamais il y a eu un prof d'anglais qui est venu nous apprendre à parler l'anglais, nous donner des notions, ne serait-ce que la notion. Déjà, là, c'est un classement social qu'on est en train de faire. Et ça ne nous a rien apporté, l'école. Qu'est-ce que vous avez ça apporté? Moi, la première fois que j'étais volé mon poste, c'est en allant au collège. Vous voyez ce que c'est, les écoles publiques dans les endroits chauds, sensibles? Et vous croyez qu'ils savent pas que ça va répertorier sur ça? On a grandi dans des quartiers, même la brique, elle était pourrite. Et voilà, on était obligé de se débrouiller. Comme beaucoup des cas ici. Ici, c'est quoi dans le 9-3? C'est famille sociale, comme on dit, cas de divorce, père alcoolique, mère décédée ou père décédé. Vous voyez ce que je veux vous dire? On a beaucoup de cas comme ça, nous, c'est ça ici. On vit que de ça, de toute façon. Si c'est pas nous, c'est le voisin. Si c'est pas le voisin, c'est l'autre. Il y a dans certains endroits, dans Paris, et je peux prendre un exemple, parce que j'ai un cousin à moi qui travaille dans le cinéma, il m'a déjà invité chez lui, j'ai vu des gens assez aisés, des gens qui ont de l'argent. Ils veulent pas entendre parler de misère. Ah oui, mais non, nous, ça n'est jamais arrivé. Jamais arrivé de quoi? Jamais arrivé d'aller dans une cave? C'était jamais arrivé d'aller voler à Leclerc pour manger? Ça les rend déjà mal de savoir la misère de l'autre. On se mélange pas. Ici, dans ce quartier même, c'est un endroit. Le lundi, c'était une rue très très chaude d'Aubervilliers. Même ici, il y a eu un mec qui s'est fait fumer. Balle dans la tête, il y a longtemps, voilà, c'est plein d'histoires qu'il y a ici. Tous les jours, des histoires de mort, de flingage, de séquestrage, de ceci. Nous, on vit comme dans un film. Mais on s'en sort. Rien que le fait tous les jours d'être vivant, comme on dit, et d'avoir un petit billet pour manger et assurer ses arrières, c'est un exploit. Et s'il y a un truc sérieux, quelque chose de concret, on va aller le faire aussi. On n'a pas souvent ces opportunités. La chance, on ne l'a pas. Il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Jamais. Jamais on va te prendre, On va dire, tiens, voilà, il y a une bonne place ici, tu vas être bien payé, tu vas avoir un bon truc. Non, je sais, non. Ou même quand on y va nous-mêmes, c'est, ils referment la porte, c'est une étiquette sur le dos, comme je dis. On a une étiquette, nous. Voilà, chacun se démerde. Ma mère, elle a besoin de rien du tout. Mon frère, elle a besoin de rien. On s'entraide, si tu préfères. Il y en a qui comprendront ce que je veux dire. On s'entraide. Quand je travaille, chacun donne un billet à la mère, ça c'est d'office, c'est obligé, et puis voilà, quoi, c'est normal. Non ?
Si.
Elle nous a donné à manger, notre mère, pour toute sa vie, elle nous a mis au monde. Pourquoi nous, on va pas rassumer ? Elle est érémiste, elle est mère au foyer, elle est érémiste. Et puis voilà, on vit la vie de tous les jours. On vit la vie de tous les jours. Maintenant, je prends ma petite pause, il fait chaud. Puis voilà, quoi. Je vais admirer mes potes travailler, ça fait du bien aussi de regarder ses potes travailler. Tu vois ? C'est aussi l'esprit d'équipe. Comme lui, il vient, il fait semblant, il traîne 2-3 trucs. Mais depuis tout à l'heure, on le voit pas.
Non, non, il sécurise le truc s'il tombe. T'as l'impression qu'il fait rien, mais il fait un boulot intelligent.
Là, il est en train de récupérer les planches qui sont encore tout à fait correctes, les panneaux, les petites poutrelles, pour pouvoir confectionner un meuble à sa femme. Comme ça, il gardera un bon souvenir du musée précaire. Ça, c'est les planches qui ont servi à construire le musée. Et lui, avec ces planches-là, il va construire un meuble pour ranger le four à micro-ondes à sa femme. Voilà, sinon, attention ce soir. Voilà, il dit, il est en train d'en parler.
Ouais, je suis en train de faire un meuble à micro-ondes.
Un meuble pour les toilettes. Pour mettre le papier toilette en haut là. Je vais mettre une planche, petite étagère, je vais mettre le papier toilette, tous les trucs des chiottes et un petit bar. Avec le reste du musée.
C'est-à-dire que ça va être des meubles qui vont vouloir vraiment cher quoi. Enfin, cher, pas au niveau cher, mais cher que déjà dans le contexte où c'est Thomas qui a décidé les planches, qui a tout fait. Il a bien suivi ses cours quoi.
Voilà. Là je vais dire à Thomas il va signer là. Thomas chercheur. Regarde, il arrive là. Thomas, il me faut une signature là. Il me faut une signature sur mes meubles. Parce que c'est comme c'est, ça vient du musée, c'est le reste du musée.
Voilà. Une signature.
Voilà.
Mais il faut un feutre. Un gros quoi. Attends, j'amène un feutre.
Voilà. Et sans le savoir, je tiens à dire, sans savoir, et ben, une fois que le meuble sera fini de monter. Et bah sans le vouloir, mon pote, il aura vraiment une vraie œuvre d'art chez lui. Et ça coûtera des millions et des millions.
Thomas s'éclate du jour au lendemain.
Parce que monsieur Thomas, je tiens à dire, il a fait des briquets en carton. Hein, il les a vendus aux États-Unis. À combien d'exemplaires il y en avait, des briquets ?
Une vingtaine
à 2000 euros pièce.
Des montres Rolex aussi. Un expo sur Rolex. Tout en carton, Thomas. Lui, c'est carton scotch. Que ça, il travaille. Que du carton, du scotch. Même là, dans son atelier, il est en train de faire encore une expo là. Carton, scotch.
Pour Bernardo, le 15, 6, 2004, Aubervilliers, rue Alpinet. Voilà.
C'est super. Voilà. Ça y est, c'est signé. Oh, doucement! Lui, c'est le cognard. On va voir l'effet que ça va lui faire. Surtout quand je vais lui dire que Thomas a sorti de sa bouche, ça vaut 1000 euros, quoi, la signature. Quoi. Quand même. Quand même. C'est que c'est vrai s'il l'a dit. Non, sa signature, c'est pas n'importe quoi, quand même. Je sais pas, non? Ouais, elle a signé ma gueule, hein! Elle va voir dédicace, un gros truc Thomas!
Et tout d'un coup, c'est 1000 euros de plus,
hein, t'as entendu ce qu'il a dit?
Il a pris 1000 euros de plus.
Voilà, 1000 euros ta planche.
Ouais, 1000 euros, t'inquiète.
Voilà. Il a un beau meuble, Bernard, c'est tout.
Des tas de baskets au top avec lesquels nous allions frimer dans les soirées hip-hop.
fesses dans une limousine. Avoir son propre chauffeur, sa ville à sa piscine. Fréquenter les lieux, les hôtels les plus luxueux. S'empiffrer de foie gras dans les restaurants les plus somptueux. Débuter la soirée en claquant l'oseille au casino. Jouer 4-5 plaques, d'entrée sur un seul numéro. Puis s'en aller tranquille, les poches toujours pleines de liasses. Suivi par toute une bande de tasses, alléchées par le cash. Continuer la soirée relax dans un grand jacuzzi. Cela coulait douce, faire couler le champagne toute la nuit. Se réveiller le matin, squatter au lit pendant des heures. Discuter business contrat avec son manager, ouais. Qui n'a jamais rêvé de partir aux quatre coins du monde. Jet privé, équipage prêt en moins de 10 secondes. Atterrir sur la piste, apercevoir la foule en délire. Le comité se précipité pour pouvoir t'accueillir. Se faire escorter par ta gorille jusqu'à la turvoie. Foncer jusqu'au cercle, s'échauffer la voix. Sur la scène, les spots braqués sur la figure. Lâcher son flow, faire monter au max la température. Après un show au top, signer une tonne d'autographes. Se retirer dans les loges, jouer les gosses beaux devant les photographes.
Brise la fin là, qui va payer le loyer, hein? Qui va faire la cour, t'as pas fini ce dernier
encore. C'est ça la vie d'artiste.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre, rediff d'été cette année-là, et c'était l'année 2004 avec ce reportage diffusé pour la première fois le 26 juin 2004, signé Farida Taher, réalisé par Claude Giovanetti. L'attaché de production, c'était déjà Sandrine Chaperon. Merci à Thomas Sirchorn, à Bernardo, à Sophia, à Karim et Karim, et à tous les habitants qui avaient travaillé autour du musée précaire et du laboratoire d'Aubervilliers. Voilà, c'est la fin de cette émission, mais ce n'est pas la fin des programmes sur France Culture, puisque dans quelques instants, vous pouvez, vous devez écouter les continents musique qui s'ouvrent à vous de France Culture. Je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de notre chaîne.